Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est par la domestication que l'espèce humaine aurait progressivement établi sa domination sur ce qui l'entoure. Voilà le grand récit, entendu mille fois en mille variantes, d'autant d'anthropologues, chacun y allant de son interprétation des liens entre rapport à l'environnement et organisation sociale et politique. Dans un ouvrage majeur, en s'appuyant sur deux récentes révolutions coperniciennes, c'est du moins ainsi qu'il les qualifie, mais aussi, et peut-être d'abord surtout, sur de longues enquêtes de terrain, Charles Stepanov vient remettre en question ce récit mythique et proposer, en lieu et place, un modèle explicatif autrement subtil et nettement moins téléologique. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Et c'est la comédienne, en l'occurrence réalisatrice d'un premier long métrage, Laetitia Doche. Ce long métrage titré « Le procès du chien » nous rejoindra donc en deuxième partie d'émission. Troisième partie, rubrique actualité, puisque c'est la nouveauté de cette rentrée pour la suite dans les idées. On aura l'occasion avec la sociologue Liora Israël de parler de la prochaine édition qui commence la semaine prochaine, qui a lieu la semaine prochaine à Marseille, du festival de l'École des études en sciences sociales « Allez savoir ». L'École des hautes études en sciences sociales, vous en êtes l'un des chercheurs et enseignants, Charles Stepanov, anthropologue, directeur d'études, donc dans cette institution, membre du laboratoire d'anthropologie sociale. Et vous publiez un fort gros livre aux éditions La Découverte, Attachement au pluriel, enquête sur nos liens au-delà de l'humain. Je voulais qu'on parte de ce mot que j'ai retenu dans le chapeau de l'émission, celui de domestication, dont vous dites dans l'un des chapitres du livre que l'une des premières occurrences en français, on la doit à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le fils du Geoffroy Saint-Hilaire qui avait avant lui dirigé la ménagerie du Jardin des Plantes, lui-même succédant à son père, et qui en donne une définition qui a retenu toute votre attention. Et ce mot de domestication, c'est l'un des objets de votre enquête.
Voilà, c'est un mot finalement courant dans la langue, domestiquer, se faire domestiquer, ça implique une forme de domination, d'asservissement, et il est assez intuitif dans beaucoup de représentations de l'histoire humaine, l'idée que les humains auraient domestiqué les plantes et les animaux, et c'est pour ça qu'on a des animaux et des plantes domestiques. Ça paraît tout à fait intuitif, or c'est une idée assez récente.
La Renaissance, vous dites.
Oh non, qui se répand à l'époque d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.
Hein. Ça s'est accentué après, mais ce récit, en fait...
De domestication, oui. C'est-à-dire que les animaux et les plantes domestiques seraient des créations d'une œuvre humaine. Ouais. Ça commence avec Buffon, et puis c'est théorisé par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui va donner cette définition que l'animal domestique, c'est un animal qui se reproduit sous la main de l'homme sur une durée de deux générations au moins. Il faut se rendre compte que les sociétés humaines ont vécu avec des animaux domestiques et avec des plantes domestiques pendant des millénaires sans penser qu'ils en étaient les domesticateurs, les créateurs. Il y avait d'autres théories, des mythes qui racontaient des histoires complètement différentes.
Alors vous vous intéressez à ces mythes et théories. En tous les cas, vous remettez en question ce récit. C'est un récit qui n'est pas... anodin dans les sciences sociales et en anthropologie, parce que c'est sur ce récit que reposent aussi des théories quant à l'organisation sociale et politique des sociétés. On a pu lire, y compris très récemment d'ailleurs, vous les évoquez, des anthropologues, à la fois James Scott ou David Graeber, pour citer deux noms très connus et découverts en France relativement récemment, qui, chacun à leur manière et différente, s'appuient sur cette idée de la domestication pour expliquer pourquoi les sociétés auraient à tel et tel moment pris des formes d'organisation particulières où l'on aurait vu des cités ou des États, ou l'absence d'États se faire jour.
Voilà, c'est un grand récit fondamental dans la conception de l'avènement de l'humanité moderne, de l'avènement de nos environnements modernes et des transformations des sociétés. C'est avec ce grand récit qu'on explique à la fois l'avènement de l'Anthropocène et des sociétés inégalitaires. Ce récit, il nous dit que d'abord les humains vivaient dans des sociétés égalitaires, des chasseurs-cueilleurs, dans une relation de partenariat et de réciprocité avec leur environnement. Ils reconnaissaient des alter-ego dans les plantes et dans les animaux. Et puis ils ont changé d'attitude au moment de la révolution néolithique, ils ont adopté une attitude beaucoup plus agressive, ces termes de Gordon Childe, le préhistorien qui a introduit cette notion de révolution néolithique, une position agressive de domination, d'asservissement, à partir de laquelle nous avons créé des races animales et des variétés, des cultivars végétaux nouveaux qui étaient notre œuvre et qui étaient soumis à notre domination. Et cette relation de domination avec la nature, on l'aurait projetée à l'intérieur même des sociétés humaines en faisant apparaître des États, des rois, de l'esclavage, toutes les formes de tyrannie, de despotisme, de domination seraient dérivées de cette domestication. Donc c'est fondamental dans notre compréhension même de l'histoire de l'humanité. Du coup, c'est extrêmement troublant pour un anthropologue comme moi, par les enquêtes de terrain, de se rendre compte qu'en fait cette conception-là, elle est assez régionale, elle est située, elle est héritée d'une histoire assez récente de l'Occident moderne et elle ne convient pas, c'est pas ainsi que les éleveurs de rennes, chez qui j'ai travaillé en Sibérie, conçoivent leur relation avec les animaux. Et en fait, dans cet ouvrage, j'essaye en m'appuyant sur mes enquêtes ethnographiques et sur une comparaison avec de nombreuses autres enquêtes ethnographiques, avec des sources historiques aussi sur les relations d'élevage et les relations agricoles dans la paysannerie européenne, de voir qu'il y avait d'autres modèles possibles de relations aux plantes et aux animaux domestiques qui ne sont pas fondés avant tout sur la domestication, mais qui sont beaucoup plus riches et complexes et qui peuvent inclure de la réciprocité et du compagnonnage.
Ça ne veut pas dire que vous abandonnez entièrement l'idée qu'il puisse y avoir un lien entre le type de rapport que l'humain entretient avec son environnement d'un côté et de l'autre côté les manières dont sont organisées les sociétés auxquelles ils prennent part, ces humains. Mais ce lien, il est compliqué, il peut être reconfiguré de différentes manières et en tous les cas, vous n'en faites pas une histoire linéaire.
Voilà, exactement. C'est la question fondamentale, hein. Elle reste tout à fait valable et passionnante, celle de savoir est-ce qu'il y a un rapport entre la façon dont les humains se rapportent à leur monde environnement, à leur milieu vivant, et la façon dont ils organisent leurs relations entre eux. Autrement dit, est-ce qu'il y a un rapport entre l'écologie d'une société et sa sociologie ? Mais simplement, les modèles mécanistes hérités du 18e siècle avec Rousseau et du 19e siècle, qui établissaient un lien entre production agricole et domination, eh bien, ils sont trop simples. Ils sont contredits par énormément d'exemples. D'un côté, on a des chasseurs-cueilleurs avec des sociétés totalement inégalitaires, despotiques, avec une aristocratie, un esclavage, qui peut atteindre 40% de la population chez les Indiens de la côte nord-ouest. Donc c'est comme les sociétés esclavagistes de l'Antiquité, dans un contexte de chasse-cueillette. On peut avoir des royautés divines chez des chasseurs-cueilleurs sédentaires, comme les Aïnous, sur l'île de Sakhaline, sur Hokkaido. D'un autre côté, là où on s'attendrait à voir forcément de la domination sociale, dans des sociétés agricoles qui cultivent des céréales, au contraire, on peut avoir des groupes extrêmement égalitaires qui refusent toute possibilité de chefferie, tout héritage des positions de pouvoir politique. Ce qui fait que des mécanismes simples, voilà, entre production et type de société, ne sont pas convaincants. Donc c'est pour ça que j'essaie d'explorer une approche différente en termes de réseau, d'organisation de nos rapports d'attachement et de production avec l'environnement, voir comment se répartissent les compétences. Il y a des formes de réseaux qui distribuent les compétences de façon très égalitaire et d'autres qui construisent des réseaux soumis à un pouvoir centralisé. Et dans ce cas-là, on va avoir des rapports au milieu vivant complètement différents, mais aussi des organisations sociales complètement différentes.
Alors évidemment, pour pouvoir établir tout cela, il faut procéder par comparaison. C'est la méthode anthropologique depuis toujours, mais peut-être trop souvent, des anthropologues s'en sont tenus à leur terrain et à leur monographie. C'est la force de votre livre, à la fois de marcher sur ses deux jambes, quoi, c'est-à-dire le terrain, la Sibérie, dans laquelle vous avez longuement travaillé, mais aussi toutes les lectures et tous les autres exemples qui évitent de formuler une théorie universelle à partir d'un seul terrain, en fait. Je voulais revenir à ce mot d'attachement qui donne son titre au livre, au pluriel, attachement, que vous venez d'employer, parce que c'est le concept central de cet ouvrage. Vous dites, au fond, que l'humain se caractérise par des formes d'attachement particuliers qui sont propres au fait à l'espèce humaine, qu'on ne retrouve pas de la même manière chez d'autres animaux, y compris des animaux très proches de l'homme.
C'est ça, l'interrogation c'était comment nos sociétés organisent nos compétences humaines. Pour répondre à cette question, d'abord il faut se demander quelles sont ces compétences humaines, en quoi consistent-elles, comment elles peuvent avoir des implications écologiques et sociologiques. Et pour ça il faut faire une comparaison, non plus seulement entre les sociétés humaines, mais entre l'espèce humaine et d'autres espèces. Et notamment nos plus proches cousins, donc les chimpanzés, les bonobos,
les grands singes.
Grands singes sans queue. Et on se rend compte que... Il y a plusieurs formes de singularité, évidemment très nombreuses. Celles sur lesquelles je mets l'accent, c'est d'une part en termes d'approvisionnement. Notre approvisionnement est beaucoup plus large. On va s'approvisionner en se nourrissant d'algues, de mollusques, d'oiseaux, de tous les mammifères possibles, de variétés de plantes extrêmement diverses, dont des plantes toxiques. Le blé, on se nourrit de blé au quotidien, mais il faut quand même se souvenir que si on mangeait le blé directement sous forme de grain, on ne pourrait pas le digérer. Ça implique un travail,
une transformation,
la mouture, la cuisson. Tout ça, ce sont des étapes techniques extrêmement complexes qui impliquent des savoirs culturels très forts, une connaissance du végétal et de ses potentialités. C'est pareil pour très nombreuses espèces, on peut penser au miel, c'est toute une technique, c'est une source d'approvisionnement très importante en glucides. Pour les chasseurs-cueilleurs, le miel, il faut maîtriser le feu, il faut pouvoir enfumer un nid d'abeilles. Voilà. Et donc, un panel énorme d'approvisionnement, ce qu'on appelle approvisionnement à large spectre, opportuniste. Et avec toutes ces différentes espèces, les sociétés humaines lient des liens qui ne sont pas seulement d'ordre matériel d'approvisionnement, mais aussi des liens symboliques, empathiques, affectifs. Ces différentes espèces que j'ai citées, le blé ou les abeilles, vont avoir des rôles dans les mythologies de ces sociétés humaines qui les exploitent. Ces liens peuvent être extrêmement forts, avec un rôle dans la mythologie, avec l'idée que certains animaux, certains arbres sont des ancêtres. Et puis ça peut être des liens pas seulement mentaux, des liens très matériels, affectifs. L'exemple qui m'a passionné, ça a été de collecter tous les cas d'adoption de petits animaux sauvages dans des sociétés humaines, et spécialement des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc c'est différent de la domestication. Très certainement, ça précède la domestication parce qu'on l'observe partout sans qu'il y ait domestication, chez les aborigènes d'Australie, chez les Indiens d'Amérique du Nord, chez les chasseurs-cueilleurs de Sibérie. On voit des familles qui adoptent en Sibérie des petits oursons, des kangourous, des marsupiaux, des opossums en Australie.
Des aigles.
Moi j'ai vu ça alors chez les Kazakhs de Mongolie, des pécaris en Amazonie. Et bien souvent, quand il s'agit de mammifères, ils peuvent être allaités par les femmes. Ça, c'est surprenant et très déstabilisant pour nous occidentaux, qui a un tabou sur ce genre de pratique. Mais en fait, c'est une pratique humaine extrêmement courante et profondément humaine, et qui nous montre que notre capacité à créer des liens, de filiation même, elle s'étend au-delà des frontières de notre espèce. Nous pouvons créer des liens de filiation, d'adoption, avec des petits bébés qui ne vont pas être des bébés humains, qui peuvent être toutes sortes de mammifères. Et c'est des liens très forts. Ces êtres vont être qualifiés de petits-enfants, traités comme des enfants, ils peuvent recevoir des funérailles. Donc tout ça nous montre une ouverture, une capacité d'adoption de l'humain extrêmement large.
Et vous dites que c'est lié au fait que quand l'humain naît, il n'est pas terminé au fond.
Voilà. Si on compare avec les autres espèces de grands singes, on a une parentalité beaucoup plus restrictive. Ils ne vont pas adopter des bébés d'autres espèces. Ils vont adopter très rarement, seulement si la mère est morte, des bébés de leur propre espèce, parce que les mères sont extrêmement possessives. Elles ne partagent pas l'éducation. C'est ce qu'ont montré des anthropologues, des primatologues dans des comparaisons. La parentalité humaine, elle a ceci de singulier qu'elle est collective, elle est partagée. C'est l'alloparentalité. Donc les papas doivent participer, les oncles, les grands-mères, toute la famille, les voisins, les crèches, les puériculteurs. C'est une activité profondément sociale et collective, la parentalité chez l'humain. Ce qui veut dire que nous avons des dispositions à prendre soin de petits bébés qui ne sont pas les nôtres, que nous n'avons pas nous-mêmes mis au monde. Nous partageons ces soins. Donc nous avons des capacités d'attachement très larges. Attachement à des bébés qui sont ceux d'une voisine, et même des bébés qui sont ceux d'autres espèces.
Mais au fond, c'est cette capacité d'attachement que les humains ont depuis toujours, probablement, qui a conduit les humains à transformer l'environnement de manière profonde, ce qu'aucune autre espèce animale ou aucun végétal n'était en situation de faire. Ça, c'est aussi une spécificité qui permet de comprendre, au fond, cette dimension, peut-être même jusqu'à ce qu'on appelle l'anthropocène aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont notre environnement a été façonné par l'homme. S'il a pu l'être ainsi, c'est du fait de cette singularité des attachements humains.
Tout à fait. Déjà, il faut bien se rendre compte que l'impact humain sur l'environnement, c'est pas quelque chose de récent. C'est pas quelque chose qui apparaît dans les sociétés occidentales modernes. Ça n'est pas un résultat ni du capitalisme, ni du colonialisme.
Ni du pétrole, ni...
Voilà.
Et seulement, en tout cas, ça joue des rôles.
Extrêmement forts de ces phénomènes récents et qui sont sans précédent dans leur échelle. Mais le fait que les humains modèlent les environnements, c'est quelque chose de profondément ancien. Des études statistiques de comparaison ont montré qu'il y a 12 000 ans, 75% de la surface terrestre était déjà influencée par les activités humaines.
Y compris ce qu'on appelle les forêts primaires, par exemple.
Voilà, même des forêts apparemment primaires, comme la forêt amazonienne ou les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ou en Pologne, dites-vous,
oui,
je crois.
La Białowieska Puszcza. Qualifiés de primaires, en réalité, ce sont d'anciens jardins, ce sont d'anciens champs. En Amazonie, ce sont d'anciens jardins issus de brûlis, d'horticulture itinérante sur brûlis. Il y a donc un modelage des paysages, y compris chez les chasseurs-cueilleurs nomades en Australie, par des incendies contrôlés. Et on se rend compte que quand ces activités humaines qui semblaient extrêmement fines et insignifiantes du point de vue des colons, quand elles sont supprimées, quand le colon va interdire ces incendies contrôlés des aborigènes d'Australie ou des Indiens d'Amérique du Nord, eh bien le paysage se transforme extrêmement rapidement. Ce qui fait que des paysages qu'on croyait vierges et éternels, en réalité étaient entretenus chaque année par des populations qui mobilisaient des savoirs écologiques extrêmement fins. Parce que l'incendie contrôlé, si on ne le contrôle pas bien, si on n'a pas connaissance de la réaction des végétaux, ça peut être une catastrophe. Donc ces paysages sont modifiés par l'action humaine depuis très longtemps. Et cette action humaine, elle passe par quoi ? Elle passe par l'approvisionnement, évidemment, la prédation, la collecte. Et les recherches récentes en écologie humaine ont montré que ces activités d'approvisionnement, elles ont un rôle clé en fait dans les écosystèmes. Chez les Martous, un peuple aborigène d'Australie, dans leur économie traditionnelle, ils collectaient environ 80 espèces de végétaux et d'animaux. Donc ils régulaient les populations. Et quand il y avait une espèce invasive, ils la régulaient, ils limitaient l'invasion. Donc ils avaient un rôle de clé de voûte, en fait, dans l'écosystème. Quand on prend l'écosystème plutôt comme un socio-écosystème, en remettant l'humain à l'intérieur de ces interrelations, on se rend compte que l'humain n'est pas nécessairement un perturbateur de ces relations entre les espèces. Au contraire, quand les aborigènes d'Australie ont été retirés de cet écosystème par le fait d'avoir été sédentarisés de force par les colons, eh bien là, on a vu de graves déstabilisations de l'écosystème avec des espèces invasives et avec même des disparitions d'espèces locales. Donc, ça passe, cette action humaine, pour résumer, elle passe par l'approvisionnement, la prédation, et aussi toujours par des liens d'ordre affectif, donc avec des adoptions de petits kangourous, de petits animaux, qui peuvent être relâchés ensuite. Les aborigènes vont pouvoir les relâcher dans des zones où il n'y en a pas. Donc ils interviennent extrêmement fortement en introduisant une espèce là où elle n'était pas. Et puis la transmission de ces savoirs même de collecte, par exemple, des plantes, des graminées, qui sont utilisées par les femmes dans la préparation de pâtes, dans la nourriture. Comment se fait la transmission de ce savoir? Comment distinguer une plante toxique de celle qui n'est pas? Comment savoir la préparation? Ça se transmet comme un savoir sacré, à travers des chants, des danses, qui vont décrire les techniques, les noms et les mythes liés à ces différentes plantes. Donc tous ces savoirs écologiques, techniques, sont toujours entrelacés dans des savoirs affectifs et mythologiques. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. On ne peut pas séparer l'exploitation de l'environnement et les rapports affectifs avec cet environnement. Et ça, c'est une spécificité humaine. C'est ce qui fait que les sociétés humaines, même les plus petites, même celles des chasseurs-cueilleurs, ont un impact fort et millénaire sur les milieux vivants.
Alors la dimension affective, il ne faudrait pas croire que dans nos sociétés dites complexes, dont on verra qu'elles ne sont pas tant que ça, elle disparaît. Au contraire, de façon presque paradoxale ou contre-intuitive par rapport à ce qu'on entend souvent. Vous affirmez que finalement, c'est cette dimension affective qui demeure là où la dimension que vous appelez métabolique des relations avec l'environnement a eu tendance à disparaître du fait d'une mise à distance d'un certain nombre de produits qu'on consomme, d'animaux, de différents éléments à la faveur de l'urbanisation, en particulier Charles Stepanov.
C'est ça. L'idée, c'est que si on veut comparer les sociétés humaines, il faut leur poser un peu les mêmes questions. Comment est-ce que vous approvisionnez ? Comment est-ce que vous nourrissez, vous chauffez, vous faites vos vêtements ? Et puis, comment est-ce que vous établissez des liens empathiques avec votre environnement ? Et les sociétés répondent de façon différente. Et donc, dans les sociétés occidentales modernes, si on examine tout simplement en observant autour de nous, dans Paris, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les relations au milieu vivant, elles existent. On a de nombreuses espèces d'oiseaux, on a des végétaux intéressants, des rapports empathiques extrêmement forts, une glorification, une esthétisation, par exemple, des végétaux dans le parc du Luxembourg. Mais il est hors de question pour les visiteurs du parc d'aller abattre des marronniers, d'aller se servir dans les buis pour se chauffer. On a un rapport là d'ordre esthétique et affectif avec ces plantes, mais il est absolument évidemment inenvisageable d'aller s'en servir pour s'approvisionner en combustible. Alors comment ça se fait ? C'est pas que nous n'ayons plus besoin de combustible, c'est simplement que nos relations métaboliques au monde, elles ne se font plus dans notre milieu vivant, dans notre habitat immédiat. Nous les avons éloignées, déléguées à d'autres régions. Donc pour l'alimentation, ça va être des régions spécialisées dans telle ou telle production, les serres d'Espagnols pour les tomates par exemple, et puis pour le combustible, ça va être les ressources d'énergie fossile ou l'uranium. Donc nous avons éloigné de nous tout ce qui est de l'ordre de la violence, de l'extraction, de l'exploitation de la nature. Et ce que nous gardons comme lien à la nature, c'est de l'ordre de l'esthétique et de l'affectif.
Alors, les sociétés dans lesquelles nous sommes, dans une grande ville comme Paris, par exemple, et bien au-delà, en France ou dans des pays comparables, ce sont des sociétés qu'on appelle en général complexes, c'est-à-dire pour lesquelles les sciences sociales ont proposé l'idée qu'elles étaient différenciées socialement. C'est des sociétés qui ont organisé des formes de division du travail. Et les sciences sociales naissent à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec comme objet principal cette différenciation sociale, et notamment en français. Au fond, vous pointez l'idée que c'est peut-être parce que il y a cette proximité avec la différenciation sociale que la sociologie durkheimienne, classique, française, ne se donne pas les moyens de comprendre ce que vous essayez de comprendre aujourd'hui en comparant les attachements étalés et en les faisant contraster avec les attachements plus denses qui reposent sur des fibres, dites-vous, qui sont tissées au fond et qu'on observe dans des sociétés dédifférenciées ou non différenciées.
C'est-à-dire que dans ces représentations qu'on évoquait au début de notre discussion sur l'évolution des sociétés humaines, on a eu l'idée que d'abord on est passé de sociétés sauvages à des sociétés barbares, puis des sociétés civilisées. Et puis on s'est rendu compte que ces termes étaient quand même très péjoratifs. Et donc on a dit plus récemment qu'on est passé de sociétés simples à des sociétés complexes. Mais on n'a pas beaucoup progressé, je trouve, avec cette idée d'une complexification unilinéaire. Parce que d'un autre côté, il y a au contraire une simplification extraordinaire du rapport au milieu vivant. Donc si on prend la socialité humaine dans son ensemble, pas uniquement entre humains, puisque comme on vient de l'évoquer, la socialité humaine, elle inclut aussi des non-humains, eh bien cette socialité humaine, elle est beaucoup plus riche et plus dense dans des sociétés comme celle chez qui j'ai travaillé, les Tojou, qui vont avoir un rapport avec une cinquantaine d'espèces. Et puis chaque espèce, elle est à la fois un ancêtre, un partenaire, elle peut être une source de combustible, de nourriture et un protecteur. Un rôle, donc c'est ça que j'appelle une relation dense, parce que
comme ils l'ont avec les cours d'eau.
Voilà, oui. Je parle du vivant, mais ça peut être aussi les cours d'eau, ça peut être des pierres,
ça peut être des montagnes,
ça peut être les montagnes, tout
ça
à fait.
Le soleil, ça dépend.
Voilà. Et avec ces différentes entités, donc très nombreuses, donc au niveau quantitatif, il y a un rapport au milieu du vivant extrêmement riche, et aussi au niveau qualitatif, parce que chaque lien avec chacune de ces entités, il est multifibre. Il est à la fois métabolique et affectif. Donc on a une très forte complexité qui implique des compétences très fortes de chacun. Il faut que chacun soit capable de distinguer dans quel arbre il va pouvoir extraire de la sève, dont il va pouvoir tirer un aliment qui va lui permettre de survivre à un moment de difficulté dans la taïga. Sur quel arbre il peut trouver de l'écorce qui va être toujours sèche, même quand il fait humide.
Ou comment s'en remettre dans certaines situations à l'animal avec lequel, sur le dos duquel on se trouve. Je pense à l'histoire que vous racontez. Vous êtes perdu dans la taïga avec un renne.
C'est ça, oui. C'est ça. Alors, moi, j'avais pas justement ces compétences au début. Et il m'est arrivé d'être à un moment de suivre une piste à dos de renne, puisque le renne est utilisé comme animal de monte, hein, un peu comme un cheval avec une selle. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte que je ne sais plus où je vais, je ne sais plus quelle piste il faut suivre, jusqu'au moment où je me suis aperçu que le renne, lui, savait très bien où il fallait aller, parce que lui, il avait évidemment une connaissance parfaite des différents campements, il savait où étaient ses copains, les autres rennes, qu'il avait envie de retrouver. Donc moi, je croyais être totalement perdu et que c'était la catastrophe, et en réalité, j'étais avec un partenaire sous moi, qui connaissait beaucoup mieux que moi, qui maîtrisait la situation. Donc, et en fait, je me suis rendu compte, à mesure que je progressais dans l'enquête, que tout le mode de vie des Tojo était fondé là-dessus, sur le fait qu'on peut partager énormément de savoirs, de compétences, d'activités avec les rennes et leur faire confiance. Et puis, si on est trop fatigué, ivre ou autre, on peut faire confiance, lâcher bride, laisser l'initiative aux rennes pour nous ramener à la maison. Mais ça, c'est des compétences. Ça veut dire être capable de comprendre le comportement de l'animal.
Donc, autant c'est une autre forme de division du travail aussi avec l'animal.
C'est ça,
mais qui repose sur un savoir-faire, une écoute, une attention, parce que vous auriez pu résister, vous auriez pu faire prévaloir la raison humaine d'une certaine façon. Vous insistez beaucoup, Charles Stepanov, dans ce livre, sur l'importance de ces connaissances. Vous disiez tout à l'heure que quand des colons sont arrivés dans des paysages ou dans des espaces, ils sont venus briser, au fond, la relation très sophistiquée que pouvaient avoir les habitants et qui leur permettait d'entretenir des équilibres dans ces éco-sociosystèmes que vous décrivez. Et ça vous permet aussi de pointer une forme de paradoxe. On a des systèmes d'enseignement dans nos sociétés simplifiées, dites complexes, qui sont très importants. On consacre des moyens, sans doute pas assez, mais plus que dans d'autres sociétés, de manière institutionnelle en tout cas. Et paradoxalement, c'est dans ces sociétés où la connaissance est censée... ces sociétés qui sont censées être des sociétés de connaissance, on les appelle comme ça parfois... que ces savoir-faire ont largement disparu parce qu'ils ne sont plus utiles du fait que ces attachements sont beaucoup plus étalés que dans les autres sociétés.
Oui, bon, c'est ce à quoi invite l'anthropologie par la comparaison à remarquer que des formes qu'on croit complexes et qu'on croit à l'aboutissement du progrès le plus formidable de l'humanité, des savoirs qui, produits par nos sciences, nous semblent être quelque chose d'exceptionnel et qu'aucune société n'a atteint avant nous. Oui, ils le sont d'un certain point de vue.
Et vous ne vous privez pas de vous en servir de ces savoirs extrêmement spécialisés. Mais
tout à fait.
C'est pas les seuls savoirs
qui existent. Il y a d'autres formes de savoir, c'est ce que montrait évidemment déjà Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, d'autres formes de science, d'autres formes de connaissance, une science qui est moins institutionnalisée, mais qui est extrêmement riche, et qui est fondée en fait, ce que j'essaye de montrer, sur d'autres formes de réseaux, d'autres formes de réseaux d'attachement. Donc, nos savoirs scientifiques, abstraits, ils sont utiles, ils sont extrêmement utiles dans des sociétés dominées par des réseaux étalés et contrôlés par un pouvoir centralisé. On a besoin d'avoir des connaissances générales sur des objets interchangeables et dans des situations extrêmement variées. Mais les savoirs locaux, ce qu'on appelle les savoirs écologiques traditionnels, qui permettent de vivre dans des réseaux denses, eh bien là, ils sont spécifiques à des situations. Ce sont des savoirs situés qui portent beaucoup de subjectivité, qui ne sépare pas l'abstrait et le concret, qui ne sépare pas ce qui est de l'ordre de la connaissance objective et de la morale, du mythologique, parce qu'ils sont associés à des liens multifibres. Les relations aux entités de l'environnement, qu'elles soient vivantes ou abiotiques, les rivières ou les pierres, elles ne sont jamais un pur rapport d'exploitation. d'utilisation. Elles vont impliquer aussi un rapport social de réciprocité, d'attachement, de transmission, d'une mémoire aussi d'un collectif qui a vécu dans ce lieu. Ce qui fait que ces savoirs, ils sont complexes et ils vont mêler différentes strates d'affectifs et d'objectifs. Or, ce que nous montrent des études comparatives récentes, c'est que, c'est un exemple frappant, des étudiants en biologie à Harvard ont moins de connaissances botaniques qu'un enfant, un indien de 4 ans en Amérique centrale. Alors c'est frappant parce qu'on se dit, bah, quand même, c'est nous les meilleurs à Harvard, c'est quand même le summum de la science humaine. Mais ce sont des savoirs qui sont abstraits, qui vont concerner la photosynthèse, qui vont concerner l'ADN, mais ces mêmes étudiants ne seront pas capables de reconnaître les espèces végétales les plus banales autour d'eux, parce que leur savoir est inscrit dans des réseaux étalés plutôt que dans un rapport dense avec un milieu vivant immédiat.
Attachement, c'est le titre de votre livre sous-titré « Enquête sur nos liens au-delà de l'humain », Charles Stepanov. On continue d'en parler dans la deuxième partie de l'émission. On va parler d'attachement et on va parler au-delà de l'humain de chien et d'un chien en particulier avec Laetitia Doche qui nous rejoint. C'est après un extrait du nouvel album de Los Campesinos, The Coin Up Guillotine.
From a dream, we were pooling pennies for the coin up guillotine. They gotta give us bread, we give us roses. A lifeless he reposes in a puddle of blood by a deadly blade of gleam. Your eyes glazed over while you sat unlistening. Said your head's on fire and every thought is kindling. A tired life is a wild ride for the saddest boy on the water slide. When the breadcrumbs only lead to where you've been. But the last thing said when we lay in bed is that I love when you invoke my death. When the grey god's mist descends on me like sleep. So how does it seem like I've been coping? My brain is fried and my spirit's broken. Working for the coin up guillotine. If you've got a cross to bear, call my name, I'll see you there. Beer bars and bus these days, hungover in the national break. Time slides glacier slow, and the gallows concrete will hit like a pillow. How's a white whale? All your exes ache within your solar plexus. Heart erupts and the pavement splatters. I think I'm right, I don't think it matters. Two sounds collide upon the breeze. Sunday service, Sunday. The side that comes an holy scream. How's it look like? I've been dealing. 10-ton truck struck full of feelings. Longing for the coin up guillotine. If you've got a cross to bear, tell me what it costs in prayer.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Attachement, c'est le titre du livre de Charles Stepanov, l'anthropologue, avec lequel nous parlons depuis le début de cette émission et nous allons continuer à parler d'attachement et des relations entre les humains et les animaux notamment, et plus particulièrement d'un chien avec vous, Laetitia Doche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, mais là vous êtes réalisatrice. C'est votre premier film, Le procès du chien, qui met en scène littéralement le procès d'un chien en Suisse. Comment vous est venue cette idée ? Est-ce que vous aussi, vous participez de ce que Charles Stepanov appelle dans son livre le tournant ontologique ? Est-ce que vous vous inscrivez ? Je sais que vous êtes une lectrice d'un certain nombre de ces auteurs.
Alors, comment est venue l'idée déjà ? Eh ben, c'est venu depuis un moment. Je travaille sur notre rapport aux autres espèces à travers mon travail, mes pièces que j'écris, une radio que j'ai faite qui s'appelait Radio Arbre. J'essaye de voir comment la culture, elle peut essayer de faire changer les ou participer ou éveiller la curiosité, poser des questions sur notre rapport aux autres espèces. Et je faisais une pièce avec le cheval. Une spectatrice est venue me voir et m'a parlé d'un procès autour d'un chien. Donc le chien avait mordu au visage une femme qui portait plainte contre le maître. Parce que le chien, dans mon film, mais est assimilé à une chose. Dans la réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et je trouvais que ça avait fait la zizanie dans la ville. Ça a créé une zizanie dans la ville qui m'avait intéressée. Parce que ça voulait dire que le statut de l'animal, il était politique, il n'était pas clair. Et c'est pour ça que toutes les passions pouvaient s'y engouffrer. Et à partir de là, je me suis dit que ce ne serait pas très compliqué de prouver que le chien n'est pas une chose. Et qu'un juge un peu zélé dise « Ah, bah si c'est pas une chose, c'est possiblement un individu, donc il faut faire le procès du chien. » Et que commence justement un procès trouble où la justice galère à juger un chien et qu'on n'arrive pas à lui trouver de statut exact, quoi.
Alors ce film donne à voir des attachements au sens de Charles Stepanov. C'est commence par ça, très très fort, au fond. D'ailleurs, c'est ce qui fait craquer l'avocate qui au début n'a pas envie de défendre ce pauvre homme qui vient la voir avec son chien.
Oui, c'est ça, c'est effectivement, c'est des personnages qui sont attachés au chien, mais comme tout le monde l'est, c'est ça qui était, je trouve, bien pour parler de notre rapport aux autres espèces, de passer par un chien. C'est que tout le monde est attaché à son chien sans forcément remettre en question son rapport plus largement aux autres espèces. Il faut savoir qu'un chien, il vient du loup. Et nous, pendant 15 000 ans, on l'a fait évoluer à notre manière. C'est-à-dire qu'on a accouplé certains chiens avec certains chiens pour qu'ils aient un museau plus long, plus court, pour qu'ils soient plus dociles. On les castre, enfin, on les modèle, on les sculpte pour qu'ils deviennent nos amis parfaits quand même. Et ce rapport qu'on a au chien, c'est le même qu'on a avec toutes les autres espèces sur Terre. C'est qu'on se sert de, pour moi, c'est qu'on se sert de quand on en a besoin et qu'on ne s'intéresse pas vraiment à qui ils sont.
C'est pour vous donc l'exemple le plus poussé au fond de cette relation ?
Le plus accessible ?
Le plus fréquent ?
Le plus proche de nous, le plus... Parce qu'effectivement, on y est très attachés. Les chiens, chaque chien a sa personnalité pour nous. Et donc, on voit que ce sont des êtres uniques, les chiens. Et donc, à travers les chiens, on peut parler de notre rapport aux autres espèces, je trouve, plus facilement.
Charles,
on peut parler de l'attachement qu'on a et de cet attachement complexe. Effectivement, un peu, je ne sais pas si on peut dire prédateur, mais en tout cas qui fait qu'on va le modeler, l'enfermer, des choses, un rapport quand même de domination et d'exploitation quand même.
Prédateur empathique, dirait Charles Stepanov.
Oui, mais c'est ce que confirment des études très belles récemment sur les échanges d'affect entre les chiens et leurs maîtres. On s'est intéressé aux échanges de regards. Les chiens suivent le regard de leur maître, suivent le pointage du doigt et éprouvent du plaisir à regarder leur maître dans les yeux. Les loups, c'est pas du tout pareil. Ils suivent pas le pointage du doigt. Ils n'aiment pas regarder dans les yeux. Et en fait, on a mesuré quand un maître et son chien se regardent dans les yeux, le taux d'ocytocine augmente chez les deux. Et c'est l'hormone de l'attachement. Donc, ça veut nous dire que, et c'est pas quelque chose d'appris, en fait. Le chien, il a cette compétence innée, alors que le loup ne peut pas l'apprendre. Ça nous dit énormément de choses sur les premiers processus de domestication. Ça nous dit que ce qui s'est passé, ça a été une forme d'attachement. C'est-à-dire que les premiers loups qui étaient sur des campements et qui ont été capables d'échanger des regards avec les chasseurs-cueilleurs, ils ont été privilégiés, ils ont pu se reproduire, ils ont suscité en fait de l'attachement de la part des humains qui se sont occupés de ces petits louveteaux qui sont devenus des chiens progressivement. Donc ça veut dire que ce processus de domestication, il n'est pas fondé avant tout sur la domination, l'exploitation, mais peut-être sur une capacité à échanger des regards. Une capacité du canidé à répondre au regard humain et une capacité de l'humain à être sensible à cet échange de regards et à le soutenir et à l'entretenir.
Laetitia Doche.
Les deux quand même un petit peu parce que enfin je trouve ça je connaissais ce truc de l'ocytocine et je savais que les chevaux en fait avaient aussi on peut dire apprivoisé les humains pour être en sécurité et j'imagine que les chiens effectivement c'est très beau cette histoire de loup qui regarde l'homme. Et qui l'attachement est comme mutuel en fait. Et c'est très beau, mais c'est quand même on les castre quand même. Enfin, ça pose
ça,
des questions.
Ça c'est récent.
Je
Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui a changé depuis 14 000 ans. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Le premier chien connu, c'est un chien qu'on a trouvé dans une tombe à côté de deux humains. La tombe à Bonn-Oberkassel qui a 14 000 ans et donc c'est le premier canidé reconnu comme un chien, donc il n'est pas utilisé comme animal de boucherie ni de trait, il est présent comme compagnon au-delà même de la mort à côté des humains. Évidemment il y a eu toutes sortes d'usages, il y a eu aussi des chiens de boucherie, les Gaulois élevaient des chiens pour la boucherie, pour se nourrir, ils mangeaient beaucoup plus du chien que du sanglier, hein, contrairement à ce qu'on imagine. Il y a des chiens de travail, des chiens de traîneau, il y a des chiens tourne-broches, autrefois en France, qui faisaient tourner les broches dans les châteaux. Donc c'est un animal qui a une diversité extraordinaire d'usages.
Mais Laetitia Doche, en voyant votre film, on se demande au fond comment s'est passé le tournage, la fabrication de ce film, dans quelle mesure ce chien était un acteur parmi les autres et quel type de relation vous avez les uns les autres entretenu avec lui?
Ça a été un travail très précis. Les dresseurs, qui ne veulent pas qu'on les appelle des dresseurs, mais des coachs canins, ont un rapport avec leur chien très proche. Ils vivent avec leur chien, leurs 8 chiens, ce qui n'est pas le cas de tous les dresseurs. Donc, ils ont un attachement et une connaissance de leur chien très, très précise. Ils ont pris le scénario, ils ont défini toutes les actions que le chien faisait dedans. Il y en avait une centaine, classées par étoile sur ce qu'ils pensaient que le chien ferait facilement ou pas. Certaines, j'ai dû les réécrire. Et puis, on a beaucoup, beaucoup répété avec les acteurs, en fait.
Mais c'est vous, c'est eux qui vous ont présenté le chien ?
Oui, ils m'ont présenté le chien, c'est vrai. Et ils l'ont amené chez moi pour un casting de chien. Mais moi, c'était ce chien-là avec lequel j'avais envie de travailler. Et c'était évidemment physique, enfin, ce qu'il dégageait, parce que c'était un bâtard à 12 races. C'était pas un chien de race claire, mais c'était surtout sa personnalité, en vrai. Parce que c'est un chien qui a aussi une histoire particulière, qui a vécu dans la rue en tant que chiot, et qui, donc, a... Je sais pas, il a énormément d'émotions différentes, très riches, et qui pouvaient correspondre à la personnalité du personnage de Cosmos. Et c'est assez marrant, parce que c'est un chien qui comprend quand on dit couper sur le plateau, qui s'arrête de jouer.
Il est vraiment devenu comédien.
Mais il est comédien. Pour moi, c'est un acteur, oui. Par exemple, j'ai une scène de bataille avec lui, et dès que j'avais mal, dès que je faisais « Ah, il s'arrêtait », il sait qu'il joue. Ça, pour moi, c'est clair, complètement clair, ouais. Et c'est pour ça que j'étais fière qu'on mette son nom au générique, qu'on mette son nom sur l'affiche. Parce que pour moi, c'est vraiment un acteur. Est-ce qu'il sait qu'il est filmé ? Ça, j'en sais rien. Mais qu'il joue, pour moi, les choses me montrent que c'est clair.
L'idée de rôle pour un animal, Charles Stepanov, de rôle au sens aussi bien théâtral que social.
Et ce qui m'a intéressé, c'est les rôles religieux aussi, parce qu'on n'imagine pas que l'animal ait un rôle dans la religion, mais en fait, dans le monde chamanique de Sibérie, les animaux sont des auxiliaires, des chamans, donc des animaux invisibles, des esprits, mais aussi les animaux les plus concrets, les rennes, chez les éleveurs de rennes, eh bien, certains rennes peuvent être consacrés aux esprits parce qu'on considère qu'ils ont un talent particulier, ils ont une perception, ils ont un regard spécial, des yeux verts, un pelage différent des autres. Et ce renne-là va être différent, il va être privilégié au sein du troupeau. Et il a un rôle dans un rituel où il doit s'incliner devant le feu. On lui fait dire des paroles prononcées par le chaman, mais au nom du renne. Donc c'est déjà aussi là une forme d'acteur, mais dans un jeu qui est pris très au sérieux, puisque les gens considèrent que leur santé, leur bonheur vont dépendre de l'activité et des compétences de cet animal.
Vous voulez dire qu'au fond, le chien n'a pas le monopole de cette relation très très forte à l'humain, que dans d'autres sociétés, le renne peut avoir des relations aussi riches, ou dans d'autres encore, vous parliez tout à l'heure des pécaries ou...
Oui, alors sur l'intensité du lien, c'est extraordinairement riche et toutes les espèces ont pu être incluses, même des batraciens, des insectes. Il y a eu des anguilles apprivoisées en Polynésie qui répondent au sifflement du maître, qui viennent picorer dans sa main, donc même des poissons, là, justement, l'humain démultiplie les liens, c'est un pot de colle. L'humain, il est capable de s'attacher à tout ce qui passe autour.
Laetitia Doche, vous disiez, vous avez travaillé avec et sur d'autres animaux auparavant. Vous allez continuer de creuser cette direction, ou est-ce que vous avez aussi envisagé de travailler sur des attachements à des non-humains qui ne seraient pas vivants? On en parlait tout à l'heure, on parlait des montagnes, on parlait des cours d'eau. Est-ce que c'est aussi des choses qui vous intéressent?
J'ai vu qu'en tout cas, travailler sur les végétaux, comme j'ai fait, m'était difficile, mais même si j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup appris, je trouve que c'est difficile pour moi de se projeter dans les végétaux, tellement ils sont différents. Alors je n'ose pas m'imaginer... travailler, en faire un... Je ne sais pas si c'est faire un personnage, d'ailleurs, ça serait juste, mais travailler autour de l'eau, autour des montagnes, ça me paraît être une montagne, justement. Mais j'ai été très... très envieuse quand je lisais des livres sur les coquilles, notamment, de voir leur lien, justement, aux montagnes et à l'eau, comment ils les considéraient. Et j'aimerais un jour être capable de faire ça, ouais.
Je pensais à ça parce qu'on a vu d'autres démarches artistiques et de connaissances qui s'intéressaient aussi, par le biais du droit, à la question de la personnalité juridique des fleuves ou des montagnes. Je pense au travail de Camille de Toledo, par exemple.
Oui, et c'est aussi, j'ai vu que la Loire a maintenant un statut de personne. C'est très récent, ça.
Pas encore au plan juridique, mais disons qu'il y a des gens qui le demandent.
Et qui peuvent, des associations peuvent défendre la Loire comme une personne et estiment que la Loire est en train de mourir comme une personne, en tout cas. Et oui, j'ai su ça hier, en fait, et ça m'a... J'ai trouvé ça très, très, très nouveau. Apparemment, il y a beaucoup de juristes qui travaillent autour de ce genre de choses et ça va vraiment changer notre façon de voir ça. Ça m'impressionne beaucoup. Je trouve ça magnifique, en fait. C'est très poétique pour l'instant, en fait.
Ça existe en Nouvelle-Zélande. En tous les cas, il y a des pays dans lesquels ça existe vraiment dans le droit. Qu'est-ce que vous inspire, Charles Stepanov, cette dimension juridique, cette codification juridique des attachements, au fond, avec les animaux ou avec d'autres entités ?
C'est un peu à double tranchant. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que on a besoin de passer par le juridique pour reconnaître la nécessité de rendre des égards ajustés, comme dit Baptiste Morisot, le philosophe. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inspirer du modèle de la personnalité juridique libérale, du modèle de la personne humaine, personne de droit qui va avoir possibilité d'entrer dans des conflits juridiques, d'ester en justice? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer, d'universaliser un modèle juridique libéral sur des formes de rapport au monde, d'ontologie, dirait d'autres anthropologues, qui organisent les choses de façon tout à fait différente, par des collectifs, par de l'entraide, par de la réciprocité, par le partage de nourriture, par exemple? Le fait de le rapport au fleuve en Sibérie passe beaucoup plus par le fait de le nourrir, de lui apporter à manger. Pareil pour le feu ou la montagne. Tous les matins, les femmes font des libations de thé et de lait, du premier lait, en direction de la montagne. Ça veut dire qu'il y a une forme de commensalité qui est instaurée. On ne va pas manger avant d'avoir nourri ces êtres qui nous nourrissent. Donc on peut avoir des conceptions qui ne sont pas forcément sur le modèle juridique, mais plus des choses tout à fait différentes. La filiation, avoir une parenté au-delà de l'humain, partager de la nourriture.
Laetitia Doche, pour terminer, le droit, au fond, pour vous, c'est juste un support, une manière de poser des questions beaucoup plus vastes, et puis de faire, on ne l'a pas dit aussi, une comédie.
Moi, ce qui me plaisait surtout avec le tribunal, c'est qu'il peut y avoir des points de vue et des idées qui s'affrontent. Et ça, je trouvais ça très riche pour le spectateur de voir un raisonnement devant eux, passionné, hein, mais un raisonnement des gens qui s'affrontent dans ce qu'ils disent, plein de points de vue différents, qui puissent construire le sien. J'aime beaucoup le tribunal, moi j'y passe beaucoup de temps parce que j'aime le temps qu'on prend à juger et à comprendre. Et c'était ça qui me plaisait beaucoup dans le tribunal. Et évidemment, faire le procès d'un chien, si on suit cette logique, ça permet de faire de la comédie sans pousser trop le trait. Il faut juste suivre la logique de ce truc-là, en fait. Parce qu'il faut faire témoigner le chien, il faut faire venir les experts, etc., etc. Et donc les situations, en fait, deviennent drôles naturellement. Comprendre comment le juger, est-ce qu'on le juge comme un enfant, comme un adulte, comme un adolescent, on peut pas juger un chien, effectivement, comme disait Monsieur Stéphanoff. Est-ce que vraiment c'est la place d'un chien d'être jugé? Non, je crois pas. Je crois pas que ce serait un progrès.
Le procès du chien, c'est un très très beau film. Votre premier film, Laetitia Deutsch, il vient de sortir. Il est visible dans beaucoup beaucoup de salles en France. Merci.
Je vous remercie.
On reste du côté du droit avec une sociologue du droit, Liora Israël, qui nous rejoint, directrice d'études à l'EHESS, comme Charles Stepanov d'ailleurs. L'EHESS qui organise la 5e édition la semaine prochaine, du 26 au 29 septembre à Marseille, de son festival qui s'appelle Allez Savoir et dont vous vous êtes occupée avec l'une de vos collègues, Myriam Teschel, avec pour thème cette année des obéissances en deux mots.
Absolument. L'idée, c'était de s'intéresser évidemment au diptyque obéir, désobéir. Mais avec cette liaison du pluriel, l'idée, c'était de justement mettre en avant la pluralité des modes d'obéissance et de désobéissance. Et aussi la manière dont les sciences sociales, dans leur diversité, mais aussi les arts, tentent de travailler justement sur cette opposition, sur cette tension qui est constitutive de notre vie en société, finalement.
Alors, je le disais, vous êtes sociologue, la collègue qui a coordonné la chose avec vous est philosophe et économiste, mais quand on compulse le programme du festival, comme à chaque fois, comme chaque année, on trouve de très nombreuses disciplines qui font cette école, puis au-delà, parce qu'il y a des chercheurs et des chercheuses extérieures. Et puis aussi, vous le mentionniez, une dimension artistique, toujours, avec des écrivains, avec des cinéastes, avec des musiciens. Enfin, c'est toujours extrêmement riche de ce point de vue-là aussi, Liora Israël.
Alors, cette richesse, elle est à la fois constitutive de l'ADN de l'EHESS, qui a toujours eu des artistes en son sein, et puis elle tient aussi au fait que ce festival il est co-organisé avec les villes de Marseille et surtout avec ces institutions culturelles.
Les musées de Marseille, beaucoup.
Qui sont nombreux, les musées, les archives. Là, on a le conservatoire cette année, et donc c'est aussi tous ces échanges et ces lieux, hein, parce que c'est aussi un festival qui se déplace dans la ville. Il y a plusieurs
déambulations. Le cœur du festival, c'est la Vieille Charité, ce évidemment. Bâtiment formidable qui abrite l'antenne marseillaise de l'école d'études en sciences sociales. Mais effectivement, il se déploie dans des salles de cinéma,
dans des salles de cinéma, dans des balades, dans des musées, dans des lieux, des centres culturels des quartiers nord, au musée aussi au MAC, qui est aussi un peu loin du centre, parce que l'idée c'est de faire circuler les sciences sociales et les acteurs des sciences sociales et des arts dans cette ville si riche et puis qui colle si bien avec le thème de cette année.
Alors, France Culture est partenaire de ce festival. Il y a une page sur le site de la chaîne qui pointe vers différents podcasts qui font écho à différents thèmes de débat en fait autour de ces questions désobéissance. La particularité aussi de ce festival tient à la manière dont vous le programmez. C'est pas un comité qui décide des thèmes, c'est plutôt à la manière des colloques, une sorte d'appel d'offres et chacun y va de sa proposition.
Absolument, c'est-à-dire qu'on fait un texte qui est une invitation en fait à la proposition et puis on essaye de susciter chez les collègues, mais aussi chez les étudiants. C'est aussi une dimension très importante. Et puis, du côté de nos partenaires des musées de Marseille, des propositions qu'après, on sélectionne, parce qu'on a un comité scientifique. Ça, c'est le côté moins sympa, parce qu'on a envie de tout prendre. Et puis, on réaménage un petit peu.
Il faut équilibrer les choses, j'imagine. Il n'y a pas trop de doublons.
Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir ressortir plein de thèmes, de sujets, d'idées qu'on n'aurait pas eu comme ça dans notre coin.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez dit désobéissance? Qu'est-ce que vous avez reçu principalement?
Alors, c'est vrai qu'on a plus reçu de propositions sur des formes de résistance, de désobéissance, d'insoumission, parce que c'est souvent ce qui ressort, parce que c'est aussi un tropisme.
Donc, plutôt en un mot, désobéissance.
Voilà, c'est plutôt ce côté-là, mais on a aussi l'inverse, parce que de toute manière, l'un ne peut pas être pensé sans l'autre, mais c'est vrai qu'on a aussi veillé à ce qu'il y ait quand même un équilibre, parce que l'obéissance est quelque chose de plus diffus, qui se voit moins, puisque ça fait partie de la routine, c'est quand même la majorité.
Mais qui est encore plus mystérieux d'un point de vue sociologique. Absolument. C'est quand même une énorme question
méthodologique.
Pourquoi on obéit?
Pourquoi on obéit? Comment ça se passe? À quoi on obéit aussi, hein? Par exemple, le dialogue inaugural entre Marielle Massé et Richard Reichmann. Richard Reichmann, il est anthropologue, mais il est aussi psychanalyste. Donc, on ne sait pas toujours très bien, en fait, à quoi on obéit. C'est important de le noter et d'y prêter attention. Donc, voilà, tisser tout cela, c'est ce qui nous a préoccupés dans la confection de cet entrelacement de propositions.
Mais intéressant de noter quand même que la désobéissance est un objet qui aujourd'hui donne envie, en tout cas, quelles que soient les disciplines. Le président de cette école, dans son introduction, fait référence à Thoreau, à cette idée de désobéissance civile qui a été un petit peu redécouverte, on va dire, ces dernières années.
Oui, la désobéissance civile, c'est aussi, par exemple, le thème du forum lycéen. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que, par exemple, les lycéens qui sont aussi avec leurs enseignants appelés à préparer ce festival avec nous, avec des jeunes chercheurs, c'est un thème qui leur a beaucoup parlé. D'ailleurs, on a aussi plein de propositions en lien avec des lycéens qui, avant le début du festival, en fait, viennent pour... Il y a plus de 1000 lycéens cette année qui sont inscrits pour faire des ateliers, pour écouter des conférences, pour participer à ce forum. Donc, effectivement, ça leur parle, mais aussi parce qu'ils subissent un peu une obéissance qu'ils jugent souvent ou parfois injuste. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de penser et de pratiquer parfois l'obéissance. C'est aussi comme ça qu'on grandit.
Alors, vous, je ne sais pas ce que vous allez faire dans le festival. Vous avez travaillé sur ces questions de contestation et notamment du droit comme moyen de contestation lié à Israël.
Absolument. C'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de co-présider ce festival. Moi, j'avais fait une thèse sur la résistance dans les milieux judiciaires. Donc, c'était un peu travailler sur ce paradoxe de la désobéissance de ceux qui sont
au cœur du droit,
censés faire appliquer le droit. Donc on était au cœur de cette tension et de la manière dont on pouvait quand même essayer d'expliquer sociologiquement, je l'espère en tout cas, ce paradoxe apparent, mais qui dans la pratique avait pris forme dans les pratiques de magistrats et d'avocats résistants pendant la guerre et qu'on peut évidemment trouver dans d'autres périodes.
Quel temps fort. J'ai vu qu'il y avait, pour faire écho à une émission récente ici, Julie Pagis qui est venue parler de son livre sur le prophète rouge qui sera présente.
Julie Pagis, elle présente son livre, évidemment. C'est la question du charisme, la question de ce qui fait qu'on obéit, c'est quelque chose d'important.
Est-ce que ça réside dans celui qui est ce chef ou est-ce que ça réside chez ceux qui sont envoûtés ou est-ce
Absolument,
que c'est dans la relation sociale que se trouve l'obéissance?
C'est dans la relation que se fait l'obéissance et des fois, il n'y a même pas besoin de chef. Hein. Je pense ici à l'attestation, par exemple, au livre de Nicolas Mario qui va aussi être présent plutôt sur le versant obéissance.
Ça, c'est l'attestation du... période
du
Covid.
Absolument. À quoi on a obéi? À quoi on a obéi quand
pourquoi
on a rempli ces formulaires?
Ces formulaires, on est prêt à les montrer, on ne triche pas.
Ouais. Et puis comparé avec ce qui s'est passé dans les autres pays, pourquoi? C'est quand même une spécificité française. Donc il y a ce côté obéissance, soumission, des certains, voilà, toutes ces déclinaisons. Et puis il y a aussi le fait, voilà, comment jouer avec la contrainte. Et par exemple, vous me demandez un temps fort, il y aura vraiment un événement formidable, je pense. Ça sera vendredi. On va avoir un concert avec Bernard Luba et Raphaël Imbert, parce que et Marc Chemillet sur la question de l'IA. Donc Luba et Imbert, deux grands jazzman, la question de l'improvisation, hein, la question du jazz, voilà, comment on joue, comment on innove avec quand même les contraintes qui font qu'on peut jouer en collectif. Et là, je pense qu'il y aura une très belle démonstration. On aura ça du côté des poètes et des littéraires le lendemain avec une grande soirée de l'Oulipo, l'ouvreur de littérature potentielle.
La contrainte.
La contrainte et la liberté.
Merci Liora Israël. On trouve les informations sur ce festival, un lien sur la page de la Suite des Idées et puis cette page donc sur France Culture dédiée au festival Allez Savoir. Merci à vous Charles Stepanov. Merci. Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain, publié à la découverte, et puis le film Le procès du chien de Laetitia Doche en salle.